Radio Orient présente Pluriel.
Bonjour, avec vous François-Xavier de Calonne.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel, Amélia Lacraffy, déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, députée des Français de la 10e circonscription, députée des Français de l'étranger. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous représentez les Français établis dans près de 50 pays, du Moyen-Orient à l'Afrique subsaharienne. Tout d'abord, l'actualité politique en France. Le parquet général a rendu ses réquisitions mardi dernier contre Marine Le Pen. La confirmation de la peine de 5 ans d'inéligibilité a été requise par l'accusation contre Marine Le Pen. Comment accueillez-vous ce verdict, un verdict qui est dénoncé par une partie de l'opinion, sachant là qu'il s'agit d'un réquisitoire et pas encore d'une décision de justice? Il y a encore un recours.
Vous faites bien de le dire. Les résultats, nous les aurons cet été. Vraiment, le verdict final, on l'aura cet été. Marine Le Pen, donc la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, a priori dit, je ne sais pas si elle va rester là-dessus, qu'elle n'ira pas de pourvoi en cassation et qu'elle fera ce qu'il faut. Et un autre candidat pour les présidentielles sera alors annoncé, et très probablement, en tout cas, Jordan Bardella. Maintenant, ce que je dis souvent, parce que nos Français de l'étranger aussi ne comprennent pas, et vu de l'étranger, on peut peut-être se laisser avoir par certaines désinformations, nos fameuses fake news, et cette désinformation met dans la tête des gens que ce serait le régime, entre guillemets, en place, donc le président Macron ou la Macronie ou le gouvernement en place, qui serait derrière. Et en fait, je rappelle que c'est juste l'enquête.
Vous dites qu'il frappe plus en l'indépendance de la justice?
Certains, oui.
Oui, ça, c'est un fait nouveau que vous...
Je ne sais pas si c'est nouveau, mais vous savez, le complotisme a de grands jours devant lui, je pense. Et les vidéos, les faux messages sont tellement bien faits, bien rédigés. On passe un temps fou et on sait à peu près qui sont derrière tout ça, les botnets de nos non-amis russes. Et pas que, en plus, d'abord. Donc la désinformation marche à plein régime et certains m'ont dit « c'est pas bien ce que fait Macron ou ce que fait la France ». Non, c'est pas la France. Elle a fauté. En tout cas, c'est ce qu'on a dit en première instance au tribunal. C'est pas moi qui le dis, c'est les juges. Et il y a quand même eu 4 magistrats. 4 magistrats qui ont enquêté pendant près d'11 ans. Enfin, c'est plus de 10 ans. Donc là, on est à plus de 11 ans de procédure ou 12 ans de procédure. Donc, on ne s'est pas réveillé en 2017 pour dire « attention, on va bloquer Marine Le Pen », ce n'est pas vrai.
Et cette inéligibilité, elle aurait un impact sur la vie politique française, si donc Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter, si Jordan Bardella la remplaçait, cela changerait la donne?
A priori, tout ce qu'on a vu comme sondage ne changerait rien. Et encore, serait en la faveur du RN, parce que les sondages que j'ai vus, après, je ne sais pas si d'autres sondages contredisent ça, mais les derniers sondages que j'ai vus et qui datent du procès en première instance, c'est que Bardella aurait de meilleurs résultats qu'elle.
Sachant qu'une campagne présidentielle est une épreuve pour chaque candidat, il faut aussi de l'entraînement. Ce que Marine Le Pen a, ce que Jordan Bardella, pour le moment, n'a pas. Il y a de très nombreux pièges à éviter aussi lors d'une campagne.
Il dépense des moyens colossaux pour le média training. Je pense qu'il est prêt.
Et ça suffit, les après-midi?
Visiblement, oui, en fait, ce qui est triste. Et c'est là qu'on doit faire redoubler d'efforts contre la désinformation, pour l'éducation numérique des jeunes. Attention, allez vérifier l'information. Certains grands médias font du fact-checking, vérifient l'information. S'il vous plaît, ne croyez pas tout, allez vérifier l'information.
Et vous parliez justement des Français que vous représentez à l'étranger. Certains de ces Français qui estiment que l'exécutif prend le pouvoir sur la justice, sur les 50 pays que vous représentez, quels sont les sujets, les demandes qui reviennent principalement parmi ces Français, sachant que la zone géographique est très vaste, on parle du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique subsaharienne?
La zone est très vaste, en effet, mais étonnamment, les besoins et les demandes sont les mêmes. C'est l'accès à l'école, le lycée français, les places pour les enfants à besoins spéciaux, c'est l'accès aux services publics, le consulat, c'est l'accès aux aides, est-ce qu'il y a des aides auxquelles j'ai droit, et c'est comment je suis représentée. Dans des pays un peu compliqués au niveau sécuritaire, c'est est-ce que la France est là pour moi? Est-ce qu'elle va me protéger? Est-ce que j'ai accès à la bonne information en cas de crise, en cas d'évacuation? Est-ce qu'on va me trouver? C'est les mêmes, mais à des degrés différents. Donc, si je suis aux Émirats, on va être quand même plus à cheval sur la culture, l'accès à la culture et l'école. Dans d'autres pays, ça sera plus la sécurité.
Avec les débats au sein de l'hémicycle qui sont suivis chez les Français que vous représentez, je pense par exemple assez récemment lors de la niche de la droite républicaine, parce que c'est son nom, l'interdiction des frères musulmans a été adoptée. C'est une résolution européenne qui a été adoptée, une résolution pour le moment non contraignante.
C'est de l'ordre du symbole, une résolution.
Voilà, c'est un sujet qui interpelle les personnes que vous représentez dans certains pays, notamment du Moyen-Orient.
Je n'ai pas été interpellée sur ce sujet par les Français, mais je l'ai été par les locaux. Et ça, c'est intéressant. Donc, certains se sont dit, enfin, vous êtes réveillés, notamment aux Émirats ou en Égypte, ils sont interdits chez nous, et comment vous les laissez prospérer chez vous? Mais les Français que j'ai rencontrés, en tout cas, lors de mes dernières réunions à Dubaï ou à Abu Dhabi, n'ont pas du tout questionné dessus.
Et justement, les Français que vous représentez, la vie politique reste tourmentée. Aujourd'hui, en France, il y a de nombreuses turbulences. Comment est-ce que cela est perçu par les Français de l'étranger? Quelle image ils ont de la vie politique française?
C'est pas facile. C'est pas facile parce que plus on est loin, plus on est patriote, bizarrement. Plus on a envie de voir une France forte, belle, juste, à sa place, dans le concert des nations, et on en est fiers. Et certains, en tout cas, encore une fois, les derniers avec qui j'ai échangé il y a une semaine, ils sont un peu gênés, ils sont un peu énervés de l'image qu'on renvoie, de politiques pas sérieux, de politiques qui ne savent pas se parler.
C'était dans quel pays ?
C'est pas évident. Aux Émirats.
Aux Émirats, oui.
Pas évident, mais même si donc il y a 10 jours j'étais aux Émirats, dans les pays où j'étais avant, et comme je continue tous les vendredis à faire mes permanences parlementaires en visioconférence avec ceux qui m'écrivent et qui demandent à me voir ou à me parler, donc j'ai les mêmes retours au Gabon, j'ai les mêmes retours en Afrique du Sud, j'ai les mêmes retours à Madagascar, j'ai les mêmes retours au Liban, j'ai les mêmes retours au Cameroun, au Kenya, et c'est vraiment constant, c'est le spectacle est atroce. Et ça, c'est gênant.
Et parce que vous représentez des Français qui vivent dans des lieux où la situation politique est particulièrement instable. Vous venez d'évoquer Madagascar. Le président Rajoelina a été déchu par l'armée. On pourrait se dire que ces personnes...
À la Gen Z.
Absolument.
Et 4 colonels ont pris le relais.
Oui.
Effectivement, oui.
Et on pourrait dire que dans ces pays-là, la situation est chaotique. Ils pourraient se retrancher vers la France.
Beaucoup sont présents depuis très longtemps, connaissent très bien les pays, sont pas forcément inquiets de ce qui se passe, mais veulent une France historiquement qui intervient. Elle a un siège permanent que cette sécurité, donc elle a son mot à dire sur la paix dans le monde. Sinon, elle ne garderait pas son siège permanent, c'est ce que je rappelle souvent. Donc, elle doit s'exprimer, elle doit être forte.
Elle doit être forte, notamment depuis le début de cette année, marquée par de nombreux soubresauts sur le plan international, les velléités de Donald Trump, la répression inédite du soulèvement populaire en Iran, la crainte d'une guerre régionale. Comment vous appréciez l'action de la France et aussi sa marge de manœuvre face à ces très fortes turbulences depuis le début de cette année?
Deux choses. Au début, je l'ai trouvé un peu trop timoré, un peu trop timide, alors que nous avons des leviers. Et je trouvais qu'on pouvait faire plus. Et plus ça va, et plus, je me dis que finalement, quand on n'est pas dans l'exécutif et quand on n'est pas chef d'État, c'est très facile à posteriori de critiquer les actions qui ont été faites. Et quand je regarde un peu de plus loin, sur tout ce qui a été fait globalement depuis un an, reconnaître l'État de Palestine, on a critiqué, on a crié au loup, attention, n'importe quoi. Il y a 10 pays qui ont suivi quand même, et pas des moindres, entre le Canada et la Grande-Bretagne.
Ça, ce sera un marqueur du quinquennat d'Emmanuel Macron, cette reconnaissance.
C'est important, oui. Parce que quand on parle de la France, typiquement, classiquement, historiquement, la politique arabe de la France, on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Et personne n'aurait parié que le président Macron allait avoir ce courage, ce qui n'a absolument pas été évident. Et pas a priori une bonne idée, parce que les otages, parce que on peut se dire qu'on félicite le terrorisme, etc. Finalement, je pense qu'il a bien fait. et que si peut-être, là je peux me tromper, mais peut-être que si on ne l'avait pas fait, il n'y aurait peut-être pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'est pas parfait avec, évidemment non, encore 22 morts, mais le cessez-le-feu n'est pas parfait, où on a plus cette catastrophe et de ces dizaines de milliers de morts.
Justement,
donc, il a été courageux.
La France ensuite, a salué l'annonce par les États-Unis de la deuxième phase du plan de paix pour Gaza, oui. Ce plan qui doit permettre de passer du cessez-le-feu à une paix durable. Le désarmement du Hamas, ce mouvement terroriste, reste la question en suspens. La mise en œuvre de cette deuxième phase risque-t-elle d'être plus difficile que lors de la première ?
Alors, évidemment qu'elle est difficile et évidemment qu'il faut un consensus. Évidemment que la France va saluer tout ce qui va dans le sens de la paix. Aussi imparfaite soit-elle, et elle est, vous et moi savons qu'elle est totalement imparfaite cette paix, mais aussi imparfaite soit-elle, la France soutient tous ceux qui veulent, en fait, qu'on arrête de parler avec les armes. Donc la France reste dans son rôle, dialogue, la diplomatie, le dialogue et comment on fait pour avancer. Elle est pragmatique, je pense, et je pense que c'est très bien. Rappeler qu'on est vraiment très à cheval aussi sur le côté humanitaire. Aujourd'hui où on se parle, on envoie, enfin, sont reçues 400 000 tonnes d'aide humanitaire.
Comme vous parlez de la situation humanitaire, je dois rappeler un fait important, alors qui n'est pas lié à la France, hein, mais à Israël, hein, le fait que des dizaines d'organisations humanitaires vont être interdites dans la bande de Gaza, exactement, d'ici à la fin du mois de février.
Et là, c'est quand même un scandale, et j'espère que l'Union européenne va parler d'une seule voix, il va parler très fort, et j'espère que Donald Trump, qui veut sa fiche humide, qu'on lui donne, mais qu'il arrête vraiment cette guerre et qu'il fasse en sorte qu'on arrête de condamner les Gazaouis et qu'on traite les Gazaouis comme une bulle à part de la Cisjordanie. Non, c'est il y a trois territoires, Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza, tout ça c'est la Palestine. Il faut arrêter de faire comme si Gaza était seul dans une bulle. Interdire MSF, c'est très grave. MSF a eu cette fameuse médaille, ce prix Nobel de la paix que veut tellement Trump.
Vous évoquiez tout à l'heure, Amélia Lacraffy, je rappelle que vous êtes députée de la 10e circonscription des Français de l'étranger, vous êtes aussi déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous évoquiez les ingérences étrangères, les dangers liés aux réseaux sociaux, justement, à l'approche des élections municipales en mars prochain, également des sénatoriales en octobre prochain, puis de la présidentielle l'année prochaine, comment se protéger de ce type d'ingérences étrangères? Vous pointiez du doigt notamment la Russie.
Déjà, c'est de travailler en européen de manière plus étroite, plus étroite, plus profond en européen pour lutter contre la désinformation. Travailler ensemble sur la régulation, comment on régule Internet, sur l'éducation au numérique pour nos jeunes, mais pas que pour les jeunes, parce que on a aussi une population beaucoup moins jeune qui n'est pas forcément à l'aise avec les outils numériques.
Ce n'est pas un peu tard, là, à l'approche de ce scrutin? Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les municipales, les sénatoriales et la présidentielle.
C'est jamais trop tard. Si on s'y met tous, vous, journalistes y compris, je pense que c'est jamais trop tard. Et c'est intéressant de le faire et de le faire ensemble. Maintenant, il faut que les gens votent. Moi, je pousse les gens à voter, même si personne ne les intéresse, qu'ils votent blanc. Mais il faut que les gens absolument votent, qu'ils montrent que la démocratie, ça veut dire quelque chose, que notre voix, même si on est au fin fond du Tchad, elle compte. Même qu'on soit au Cameroun, au Tchad ou je ne sais où, ma voix compte. Et si je vote, les politiques publiques en France vont s'intéresser à moi. Et c'est le message que je passe le plus souvent. S'il vous plaît, montrez que vous êtes là, que cet acte citoyen vaut quelque chose et que la démocratie vaut quelque chose. Quand on voit la vitesse à laquelle elle recule, notamment aux États-Unis, c'est faramineux.
Vous les poussez également à voter pour les élections consulaires. Ça, c'est très important pour vous.
Oui, c'est très important. C'est encore, hélas, une élection méconnue. Mais nos conseillers des Français et des étrangers sont le premier interlocuteur politique, les premiers élus à qui s'adressent nos compatriotes à l'étranger. Ils sont le premier lien avec la France, avec la démocratie. Ils les représentent, ils défendent leurs intérêts. Et pour nous, ils sont un relais précieux dans les deux sens. Et transmettre l'information à nos compatriotes et remonter aussi l'information au consulat et ambassade et à nous-mêmes élus députés sénateurs. Et ils sont les grands électeurs. Donc les conseillers des Français d'étrangers comme nous, députés des Français d'étrangers, votons pour les sénateurs des Français de l'étranger. Donc je dis à nos compatriotes, s'il vous plaît, ce pouvoir que vous avez entre les mains avec votre carte d'électeur, utilisez-le et votez.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Amélia Lacraffy, je rappelle que vous êtes donc déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, députée de la 10e circonscription des Français établis hors de France. C'est une très vaste circonscription qui regroupe environ 50 pays, et cela va du Moyen-Orient à l'Afrique subsaharienne. Merci à vous, chers auditeurs. Cette émission a été enregistrée depuis l'Assemblée nationale. Très bonne suite des programmes à l'écoute de Radio-Orient.
C'était Pluriel.